Canal Sud 92.2, bonjour. Depuis le temps que je vous parle, Germaine Tillon, sans vous en parler, vraiment, il serait temps que je mette mes menaces à exécution. Alors quelques fidèles se souviendront peut-être d'une première émission consacrée à cette fantastique grande dame, du temps de mon passage à la textuelle, ou peut-être au début de Contre-Histoire, le lundi matin. J'ai eu le temps d'enrichir depuis un peu mes archives, et François Hollande d'avoir une bonne idée. Donc, en récupépette. Germaine Tillon est née en 1907 dans une famille de gauche et d'intellectuels qui lui a permis de faire tout ce qui lui passait par la tête, séjour linguistique, études d'histoire et même de préhistoire, pour finir par l'ethnologie, qu'elle attaqua avec passion, en s'installant dans les Aurès en 1934 avec une camarade et une pittoresque caravane, comme elle va vous le raconter elle-même. Alors, toutes les interviews que vous allez écouter, je l'espère, vous pourrez les retrouver en vidéo sur YouTube. Elles ont été créées sur les ondes de France Culture, d'Arte et de France O dans les années 90 et surtout à l'occasion du centenaire de la Grande Dame, donc en 2007. Vous retrouverez en particulier la vidéo d'El Gusto, El Gusto TV, diffusée sur http://elgusto.blogspot.com et la vidéo d'Augustin Barbara sur les images oubliées de Germaine et les superbes vidéos, je crois qu'il y en a deux au moins, qui s'appellent « Hommage à l'Aurésienne Germaine Tillon » de G. Zeus. Et puis, à la fin de l'émission, vous écouterez une autre voix à laquelle on ne s'attend pas et qui atteste de la dimension politique et diplomatique extraordinaire du personnage de Germaine Tillon. Pour ce qui est des documents écrits, on se reportera à l'ouvrage présenté par Tvetan Todorov à la recherche du vrai et du juste, qui est consacré au souvenir de Germaine, et aussi au combat de guerre et de paix, où Germaine Tillon raconte tout, et joint même en annexe ses correspondances, notamment celle avec De Gaulle. Je vais vous lire aussi des extraits des articles de Catherine Portevin, parus dans Télérama pour le centenaire, donc en 2007. Quand le théâtre parisien du Châtelet a monté le Verfugbar aux enfers, l'opérette d'humour prodigieux et grinçant que Germaine avait composée à Ravensbrück pour soigner par le rire ses camarades mourant de faim. Voici le premier article de Catherine Portevin. 100 ans de résistance. Germaine Tillon, le tour d'une vie. Ravensbrück, Algérie, conditions des femmes, sans papier. Germaine Tillon a secoué son siècle avec ferveur et tendresse. Animée d'une unique passion, comprendre pour agir. Elle-même préoccupée toute sa vie de transmettre, se sera fort peu souciée de sa propre postérité, encore moins de tenir des postures. Le romantisme de l'engagement, elle ignore. Le lyrisme des idées nobles, elle se méfie. La bonté de l'humanité, elle est sans illusion sur les pentes de l'espèce. En revanche, décrire dans le moindre détail le fonctionnement d'un camp nazi, celui de Ravensbrück, où elle fut déportée comme résistance en 43, c'est indispensable. Sauver des vies pendant la guerre d'Algérie, aller réclamer les grâces une à une, tant pour les combattants du FLN qu'auprès d'eux pour la population civile, elle ne s'économise pas. Plaider pour l'éducation dans les bidonvilles d'Alger ou les prisons françaises, elle est infatigable. Chercher la vérité et la dire sur les goulags soviétiques dès 1949, sur l'usage de la torture par l'armée française en Algérie dès 1957. Refuser l'occupation allemande dès le 17 juin 1940. Là fut toujours Germaine Tillon, sans jamais se raconter d'histoire. Ne militant dans aucun parti, cet esprit libre n'aura eu qu'une passion, comprendre, pour résister, pour compatir, pour agir. Je refuse de tuer l'un pour sauver l'autre, sinon on devient fou, dit-elle. Ce prix accordé à la vie humaine, à chaque vie humaine, fut son seul credo. Le seul sûrement que l'on puisse encore adopter en sortant des camps de la mort. Enfin, Germaine Tillon, c'est un regard, celui de l'ethnographe qu'elle fut, mais pas seulement. Toute sa vie, elle a regardé les hommes vivre amicalement et gentiment, dit-elle. Les paysans pauvres des Aurès, dans les années 30, où l'amène son premier travail de terrain. Les mêmes, en 54, clochardisés, laissés pour compte de l'économie européenne. Les femmes, d'abord celles qu'elle forme dans les centres sociaux d'Alger, et plus tard celles qu'elle rencontre en Mauritanie, au Niger, en Haute-Volta, en Libye, au Moyen-Orient, en Inde, lors de ses missions scientifiques. Les sans-papiers à Paris en 1996, les maghrébins de France, les jeunes de banlieue, les harkis, les pieds noirs. Est-ce son expérience du mal ou la fréquentation de ses maîtres en ethnologie, Marcel Mauss, Louis Massignon? Elle semble porter en elle toute l'histoire du monde, tissant ensemble, avec une évidence confondante, les temps immémoriaux et l'urgence du présent. Tous ceux qui ont rencontré Germaine Tillon savent que, comme les vrais sages, elle tient conversation dans les détails. Elle évacue d'une pirouette les questions générales, ou bien y répond par le récit particulier. Il faut établir la précision des faits, des rencontres, des lieux, des moments. L'histoire de tel ou tel individu, traitant chacun à égalité, sans aucun égard pour les grades. Regard vif, malicieux, incrédule, empathique. Germaine Tillon a fait de l'humour et de la tendresse infinie les outils les plus infaillibles de sa lucidité. À celle qui se fiche tant des honneurs, la République française va réserver une place au Panthéon.
Vous là-bas, votre vie au quotidien avec l'interprète, le cuisinier? L'interprète, c'était le cuisinier. Après,
ah, c'était le même ?
Oh, oui. En réalité, j'avais embauché, pas tout de suite d'ailleurs. Nous sommes arrivés, d'abord la première année, j'étais avec une collègue qui s'appelait Thérèse Rivière, et nous avions embauché à Alger un chaouia qui était à la fois, parlant très bien français, chaouia et arabe, et qui était cuisinier, et qui était l'homme à tout faire pendant quelque temps. J'ai un peu plus tard embauché un homme d'une tribu voisine de celle où je travaillais, qui était un garçon très sérieux et que j'avais déjà repéré à une fois où j'avais loué ses mulets. J'avais loué ses mulets et j'avais été frappé de la façon gentille avec laquelle il traitait ses bêtes. Alors comme à ce moment-là, moi j'avais acheté un cheval, une jument, une mule, un mulet et une danesse pour tout mon matériel, j'ai cherché quelqu'un qui serait gentil avec les bêtes. Et c'est pour ça que j'ai embauché moine.
Sur une photo, vous avez toute une caravane derrière vous, vous êtes à cheval.
Et... Ça fait une caravane, oui. Ma jument avec mon chien, très amis tous les deux. Et puis ensuite, après la jument, ma vaillante petite mule, Louisa. Et puis mon méchant mulet, Astote. Et puis ma charmante petite Rosalie, qui était une ânesse.
Vous restez...
Très vaillante aussi.
Vous restez 6 ans dans les Aurès. Qu'est-ce que vous gardez comme impression de ce séjour, ce premier séjour ?
Le premier, vous voulez dire qu'il a duré tout de même
6 ans.
6 ans, oui. Mmh. Une impression de paix complète et de sécurité totale.
Vous vous êtes senti bien là-bas ?
Tout à fait. J'étais très bien et très bien, très tranquille et tout à fait pas inquiète. Je me souviens que j'ai laissé tout ce que j'avais, y compris des très beaux appareils pour mon Rolleiflex et tout ça. Quoique je l'emmenais en général avec moi. Mais enfin, tous les objets les plus précieux que j'avais, je les laissais dans une espèce de caverne, avec une sorte de rideau, qui était en réalité un vieux tapis de sol.
Mais vous avez été plus que tranquille, vous avez été heureuse.
Tout à fait, oui.
Et vous avez piqué droit sur les Aurès, ou bien...
Et nous étions déjà dans l'Aurès. Et par conséquent, j'ai fait très vite l'expérience de la solitude dans un milieu... où il n'y avait aucun Européen.
Depuis longtemps, ou bien il n'y en avait
jamais eu. Il n'y en avait jamais eu.
Ça avait été la première
j'ai
Européenne
été, j'ai, Non, il y avait une fois par an un médecin qui venait vacciner les enfants, mais qu'on ne voyait pas, qui arrivait. Il y avait une espèce de petit bâtiment dans lequel venait le médecin une fois par an vacciner les enfants. Les femmes ne le voyaient pas. C'était les hommes qui allaient porter les gosses à vacciner. Et les femmes n'avaient jamais vu d'Européens de leur vie.
Il y avait bien un administrateur colonial.
Ah, enfin... mais l'administrateur était à Arris. Moi, j'étais à 14 heures de cheval d'Arris.
Vous avez appris à monter à cheval là-bas.
Là-bas.
Vous avez appris au musée de l'Ouvre. Non,
non, non. Je, d'ailleurs, je ne faisais pas d'équitation. Je montais sur un cheval, c'est tout.
Encore
J'y restais. Mais je me souviens que une fois mon cheval s'est emballé, j'étais un peu inquiète.
Et tout ça se passe 4 ans avant les grandes cérémonies du centenaire de l'Algérie française et juste après l'exposition coloniale.
Exactement.
C'est une époque où nous vantons d'avoir apporté la civilisation à tant de populations et là...
Eh bien, on avait tout de même apporté les vaccinations. Les
vaccinations.
Qui ont changé la physionomie du pays. En changeant la démographie.
Mais la première école était où ?
La première école, il y avait une école à Menaha et une école à Arris. Menaha était à beaucoup plus de 14 heures de cheval. Arris était à 14 heures de cheval exactement de l'endroit où j'étais. Mais Menaha était certainement à beaucoup plus loin.
Donc les enfants, il n'y avait pas accès.
Les enfants n'allaient pas à cheval. C'est tout à fait exclu.
Il y avait une sorte d'école coranique dans le
Il y a eu quelque temps une école coranique dans laquelle il y allait 5 ou 6 petits garçons.
Pas les filles, bien entendu.
Pas les filles, bien entendu. D'ailleurs, les femmes n'avaient aucun enseignement religieux. Et je pense qu'ils le faisaient exprès.
Reprenons un article suivant de Catherine Portevin. Un cœur à rire. Cœur, C-H-O, E dans l'eau, U-R. Un cœur à rire. 1944, Ravensbrück. Pour aider ses co-détenus à survivre, Germaine Tillon écrit une opérette pleine de dérision sur leurs conditions. Le théâtre du Châtelet a eu l'idée audacieuse de la monter pour la première fois à la scène. Sur un air de valse-musette, les choristes se mettent à chanter. On m'a dit, il faut résister. J'ai dit oui presque sans y penser. C'est comme ça que dans un train de la ligne du Nord, j'eus ma place retenue à l'œil et sans effort. L'effet est glaçant. On ne sait si l'on doit rire ou pleurer, en pensant à la force qu'il fallait à Ravensbrück pour choisir justement de rire plutôt que de pleurer. N'oubliez pas la hargne, conseille la metteur en scène Bérénice Collet aux jeunes chanteuses. Ça a été écrit pour s'en sortir. Le vers Fugbar aux enfers est l'œuvre la plus surprenante qui soit sur les camps de la mort. D'abord parce qu'elle est composée sur place, jour après jour, écrite sur un petit carnet que Germaine Tillon cache avec elle dans une caisse d'emballage. Ensuite, parce qu'elle s'inspire directement de l'expérience des détenus, décrivant avec une précision d'ethnologue le fonctionnement du camp. Un camp modèle, avec tout le confort, eau, gaz, électricité, gaz surtout, chante le cœur. Enfin, parce qu'elle choisit la légèreté et l'autodérision comme distance de survie. Et son amie Nelly Forgette dit à propos du carnet qui a été miraculeusement sorti du camp. L'écriture est ferme, si tranquille, si nette. Quand elle écrit, elle est malade. Elle vit l'horreur et sa main ne tremble pas. Il n'y a aucune haine dans cette écriture, déjà. L'opérette décrit comme une espèce monstrueuse ces vers Fugbar, gastéropodes informes, quelquefois femelles, mais le plus souvent rien du tout, dont l'espérance de vie ne dépasse pas 2 années. Et les vers Fugbar, bien entendu, ce sont ces femmes enfermées à Ravensbrück. Les dialogues baroques sont entrecoupés de chorégraphies et de chansons cocasses composées sur des airs populaires connus. On pourrait d'ailleurs entendre là tout un patrimoine musical dont Germaine Tillon avait la mémoire et qui va de la chanson scout à l'opéra en passant par des publicités, des marches militaires au French Cancan de Reynald Hahn, Offenbach, Charles Lecoq, Gluck. Sur ces airs enlevés, les vers Fugbar évoquent leur corps qui se délite, leur dysenterie, leurs camarades qui disparaissent, les chefs de bloc sadiques, mais aussi, soudain, toutes les spécialités culinaires des régions de France, leurs rêves, leurs espoirs. Est-ce montrable dans une salle de spectacle? Est-ce que cela peut sonner juste? S'est demandé le directeur du théâtre, Jean-Luc Choblin. Il a choisi de confier le texte à des jeunes et essentiellement des femmes. Hélène Bouchèze, directeur musical, Géraldine Keflin, dramaturge, Bérénice Collet, metteur en scène, ont à peu près l'âge qu'avait Germaine à Ravensbrück. Toutes les trois disent avoir été d'abord tétanisées. Comment ne pas trahir ni le comique du texte, ni la tragédie du contexte? Humour, tendresse, douceur sont les 3 consignes que l'on m'a données pour adapter le texte, se souvient Géraldine Kleffin. Tout, musique, décor, costume, devrait être simple, comme fait avec les moyens du bord, explique encore Jean-Luc Choplin. Cet après-midi-là, assise au bord du plateau de répétition, se tient Anise Postel-Vinet, qui fut la camarade de détention de Germaine Tillon à Ravensbrück. Elle avait alors 20 ans. Pouvait-elle imaginer cet hiver 44 entendre un jour sur une scène parisienne cette opérette qui peut-être certains soirs les a empêchés de sombrer? Évidemment pas. Pendant longtemps, raconte-t-elle, Germaine a refusé de faire connaître ce texte. Elle disait que les gens ne pourraient pas comprendre. Ils allaient croire que nous nous étions aussi bien amusés à Ravensbrück. Aujourd'hui, on connaît la vérité. Le Verfugbar aux enfers est inachevé. Au fil des scènes, on sent l'énergie s'amenuiser. À l'acte 2, on a encore la force de se raconter quelques fantaisies ou souvenirs. Au troisième et dernier acte, il n'y a plus que la profondeur du quotidien et du désespoir. Juste l'urgence de la prochaine minute. Les passages musicaux se raréfient, remarque Hélène Bouchèze. Ça se termine sur beaucoup de silence. Cet hiver 44-45, quand Germaine Tillon ne peut plus écrire, l'extermination s'accélère à Ravensbrück.
Quelle était, selon vous, à l'occupation de Paris? Quand Paris s'est retrouvé occupé, est-ce que vous y attendez, est-ce que vous y attendez pas? Quelle a été votre réaction?
Je m'attendais pas à ce que Paris soit occupé. Mais je dois dire que j'ai quand même fait un voyage en Allemagne en 32 et 33. J'avais été avec la vague idée d'apprendre l'allemand, ce qui n'a pas du tout. Disons que j'avais pas beaucoup de dons pour les langues, en tout cas. Et je suis allée en Allemagne, donc, en voyage d'études. Et j'ai passé 3 mois à Königsberg, en Prusse orientale, en décembre 32 et janvier-février 33. Ce qui fait que j'ai été reçue par tous les professeurs de l'université de Königsberg, qui étaient tous absolument ravis d'avoir une occasion de parler français avec une Française authentique, c'est-à-dire moi-même. Il paraît que c'était une denrée extrêmement rare à Königsberg. Alors, j'étais donc invitée